L'Épître au lecteur, par Edward Burroughs, ajouté en introduction aux œuvres de George Fox, volume 3/8, Le grand mystère de la grande prostituée dévoilée et le royaume de l'Antéchrist révélé. Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour obtenir un renvoi dans l'écriture ou des détails dans les écrits. Lorsque vous avez cliqué sur la Bible en ligne, vous pouvez modifier et mettre à jour afin d'afficher la version de la Bible que vous préférez. En utilisant le dictionnaire Webster de 1828 pour aider à traduire des sens obsolètes des mots, cet écrit comporte de légères modifications afin de refléter la langue et l'usage actuel. Mais, dans tous les cas, un grand soin a été apporté pour préserver le sens original. À tous ceux du monde à qui il pourra parvenir d'être lu, afin qu'ils lisent avec une bonne compréhension, et qu'ainsi ils puissent parvenir à la parfaite connaissance du fondement de la différence entre les prêtres, les professants et toutes les sectes de ces nations, et nous qui par dérision sommes appelés Quakers, montrant que de notre part, la controverse est juste et équitable contre tous, et que nous avons des raisons suffisantes de crier contre eux et de renier leur ministère, leur église, leur culte et toute leur religion, comme n'étant pas dans la puissance. Ceci est aussi une invitation à toutes les sectes et professions de gens à se présenter et à éprouver si ce qu'ils tiennent et professent est conforme aux Écritures de vérité, et à le faire en éprouvant toutes choses par des arguments évidents et solides, et par les meilleures armes spirituelles qu'ils possèdent, et à renoncer à toutes ces persécutions et à ces procédés injustes, à ces mises au pilori, à ces coups de fouet et à ces emprisonnements contre nous pour avoir parlé contre leur religion, et qu'ils se présentent dans une dispute équitable pour contester dans. Voici aussi un récit véritable de nos tout premiers commencements et de notre apparition dans le monde, et des grandes souffrances que nous avons endurées, et de la manière dont nous avons été conduits et préservés jusqu'à ce jour. Le Seigneur Dieu éternel, qui est vrai et fidèle, a accompli sa promesse en nous et pour nous, et nous avons été rassemblés loin de la bouche de tous les bergers muets et hors de la bouche de tous les mercenaires, qui ont fait de nous leur proie, se nourrissant eux-mêmes de la graisse et dévorant des âmes pour un gain déshonnête. Nous sommes venus à l'enclos du repos éternel, où le Christ Jésus est le souverain berger, et il est le berger et l'évêque de nos âmes, qui nourrit son troupeau du pain vivant qui nous nourrit pour la vie éternelle. Il nous a appelés de son nom et nous a fait sortir, et il nous fait paître dans de verts pâturages. Nous sommes nourris de la manne cachée et nous reposons à midi avec son troupeau rassemblé. De nations, de parentés, de multitudes et de peuples, nous sommes rachetés pour Dieu, nous sommes sortis du monde, de la grande Babylone, de Sodome et d'Égypte spirituelle, où le Seigneur Christ a été et est crucifié, et demeure jusqu'à ce jour comme égorgé. Sur le sommet du monde, le Seigneur nous a placés sur la montagne de sa propre maison et demeure, là nous contemplons et ressentons la vie, la gloire et la couronne du monde qui n'a pas de fin, et le monde qui a une fin est vu comme dépassé, et sa couronne et sa gloire sont le marchepied de celui qui règne parmi nous. Quant à tout ce que ce monde périssable produit, que les hommes recherchent, cela est compté pour nous comme une tentation, bien que tous les fils d'Adam recherchent sa gloire, ses richesses, ses couronnes, ses biens. Mais nous sommes de cette naissance qui n'a ni couronne, ni gloire, ni repos sous le soleil. Une naissance a été produite parmi nous, héritière d'un autre royaume et possesseur d'une autre couronne, dont la gloire est dans le Seigneur tout le jour, et il est notre refuge, notre rocher et notre forteresse contre tous nos ennemis, quelles que soient les armes dont les méchants se munissent et l'arc que les impies bandent. Et quand bien même toutes sortes de gens, du prince sur son trône au mendiant sur son tas de fumier, s'élèveraient contre le peuple méprisé de l'héritage du Seigneur, qui, à cause de son nom, est mis à mort tout le jour. Et quand bien même les sages produiraient leurs arguments, et les gouvernants rendraient des jugements injustes contre la semence que Dieu a bénie. Et quand bien même les fêtards et les moqueurs ouvriraient la bouche, et que des rapporteurs et des fêtards déverseraient leurs paroles amères comme un flot contre le reste de la semence de la femme, qui depuis longtemps s'est enfuie dans le désert. Que dire alors si les docteurs, les prophètes, les anciens, les chefs et les sages du monde se mettent à prier, à prêcher et à imprimer contre la semence choisie de Jacob. Malgré tout cela, quand bien même cela serait arrivé, et que l'enfer aurait ouvert sa bouche et que ses flots se seraient déchaînés pour déborder et s'accroître encore davantage, le roi de justice régnera parmi son peuple, et sa présence n'abandonnera pas ses élus. Le Seigneur est avec nous, puissant et terrible, le cri d'un roi est parmi nous, et la crainte du Tout-Puissant nous couvre, elle marche devant nous et nous entoure, et le Seigneur accomplit sur la terre une œuvre puissante et merveilleuse. Il rassemble les dispersés, panse les cœurs brisés, et son peuple demeurera en sécurité, nul ne l'effraiera, aucune arme formée contre eux ne réussira, et aucune main levée ne prévaudra. Car Sion se lèvera de la poussière, elle revêtira ses beaux vêtements. le deuil et la tristesse s'enfuiront. Sa lumière s'est levée, elle est éternelle, et le soleil ne se couchera jamais, mais son jour demeurera à jamais, et la nuit ne couvrira plus son éclat, ni le soleil ne se couchera sur ses demeures. La ville longtemps dévastée sera rebâtie, et l'habitation longtemps sans habitants sera remplie, car l'innombrable semence de Jacob sort d'Égypte et remplira toute la terre, et la semence d'Ésaü deviendra serve. Et vous, où êtes-vous rassemblés? Et dans quel but les méchants ont-ils dépensé leur force à s'opposer à ce que le Seigneur accomplit? Tous nos ennemis ne seront-ils pas brisés en morceaux? Et le Seigneur ne les réduira-t-il pas en poudre? Ne flétrira-t-il pas leur beauté? Ne tachera-t-il pas leur orgueil? Ne fera-t-il pas tomber leur couronne? Ne corrompra-t-il pas leur gloire? Ne la marquera-t-il pas du feu de sa colère, les couvrant de honte à cause de leurs voix et de leurs doctrines? Entendez ceci, vous prêtres, hurlez et lamentez-vous à cause du malheur qui vient sur vous. Le Seigneur vous a dépouillés et mis à nu, vous êtes vus tels que vous êtes, et l'élu s'est levé parmi nous, que vous ne pouvez tromper. Mais hélas, malheur à moi, comme vous avez fait errer le peuple, comme vous avez conduit les aveugles hors du chemin, et comme la vérité est tombée dans vos rues. Vous avez enduit de plâtre trompeur, sans le bon mortier, vous avez crié paix aux méchants et condamné les justes, et tout cela a tourmenté l'âme juste, et le Seigneur va maintenant se lever, et il s'est levé, vous ne résisterez pas et n'échapperez pas au coup de sa main, qui viendra sur vous et vous broiera comme une meule, car vous avez fait se réjouir les méchants et gémir les justes, et vous avez attristé son cœur, lui que Dieu n'a pas attristé. Ne vous êtes-vous pas nourri de la graisse, et ne vous êtes-vous pas vêtu de la laine, tandis que les âmes du peuple étaient affamées, et que la maigreur était sur elles toutes? Vos plantations sont desséchées, des arbres stériles qui ne portent aucun bon fruit, et votre peuple est comme un désert inculte, ni labouré, ni défriché, ni soigné, et vos troupeaux sont comme des ânes sauvages sur les montagnes, indomptés, aussi grossiers que le cheval et le mulet, qui ne connaissent pas le mort. Et maintenant on voit quel est le terme de votre ministère et quel fruit il a produit. Le Seigneur y a pris garde, il a vu comme vous avez traîné et demeuré oisif, et les nations gisent encore comme un champ en jachère qui ne porte pas de fruits, et les cœurs des hommes restent intacts par manque de la parole de Dieu, et il n'y a parmi votre peuple aucune intelligence saine, vraie et parfaite des interventions du Seigneur ni de l'opération de son esprit, mais il demeure dans une grande cécité et ignorance, vide de la connaissance de Dieu. Car vous ne les avez pas amenés à entendre sa parole, mais vous leur avez raconté vos rêves et vos fausses visions, vous avez exprimé les imaginations de vos cœurs, et non ce qui sort de la bouche du Seigneur. Vous ne vous êtes pas tenus dans son conseil, vous n'avez pas écouté sa voix, et c'est pourquoi le peuple demeure sans profit. Ce que vous savez est naturel, et non par l'Esprit du Père, mais tel des arbres desséchés que vous êtes, vous n'êtes pas enseignés par le Père, et tel des boucs rudes, dans la nature des porcs souillés par l'ordure du monde, et dans la nature des chiens et des lions, vous vous dévorez, vous vous mordez et vous vous tuez les uns les autres, chose qui n'était pas dans les églises du Christ. Nous avons une grande controverse avec vous, et cela de la part du Seigneur. Nous vous avons éprouvé, sondé, et nous avons découvert votre fondement, il n'est pas saint et ne tiendra pas à l'épreuve. Nous avons tiré votre ligne depuis l'origine première, nous avons trouvé votre commencement, et nous constatons que vous êtes de cette race dont le Christ a prophétisé qu'elle viendrait, qui en tromperait beaucoup, portant la peau de brebis, mais intérieurement ravageuse, et que Jean a vu être venu, et sorti des apôtres et des vraies églises, sorti de la vérité et entré dans le monde, ayant la forme de la piété sans la puissance. Là commença la race, dans l'apostasie des églises. Et lorsqu'ils apostasièrent de la vraie foi, alors se leva votre fausse église originelle, et le monde les suivit, et tous les habitants de la terre adorèrent la bête, qui a régné durant tout ce temps d'apostasie, depuis les jours des apôtres. Nous trouvons que votre origine ne remonte pas plus loin que les faux frères et les faux apôtres, qui sortirent des vrais apôtres, coururent après les dons et les récompenses, prêchèrent pour un gain honteux, et par cupidité, firent trafic des âmes, cherchant l'argent et le profit pour eux-mêmes. Je dis, nous trouvons que votre fausse église originelle commence là, et que votre ligne ne remonte pas au-delà, et que votre première montée ne parvint jamais jusqu'aux vrais apôtres. Vous n'étiez pas, à votre commencement, de leur vie ni de leur naissance, et vous ne pouvez être comptés depuis leur origine, vous ne leur succédez pas. Mais vous succédez véritablement aux faux apôtres et aux faux frères, que le Christ a prophétisé comme devant venir après ses jours, et que Jean a vu être venu et venir en ses jours. Nous vous trouvons de cette souche et de cette génération, et vous voilà maintenant découverts comme étant contraires aux vrais apôtres, et d'accord avec les faux apôtres, dans l'appel, dans la pratique, dans l'entretien et en toutes choses, et la ligne du vrai jugement est posée sur vous tous, vous êtes mesurés et trouvés trop courts, pesés et trouvés trop légers. Nous traiterons avec vous en vérité dans le jugement, premièrement, nous avons controverse avec vous au sujet de votre appel, de votre ministère, auquel il ne correspond pas, mais qui est contraire à ce qu'était l'appel des apôtres. Eux étaient appelés par la puissance d'en haut, faits ministres par le don du Saint-Esprit reçu de Dieu, leur ministère était un don absolu de Dieu, non à acheter ni à vendre pour de l'argent, et ils étaient oints par le Père, par l'Esprit de sa promesse, pour prêcher l'Évangile. Mais votre appel vient des écoles et des collèges, pour telle ou telle fin, atteinte par des efforts naturels dans l'étude et ses arts et sciences, et par des grades, après avoir passé tant d'années à étudier des arts naturels et des langues naturelles, voilà votre ordination et votre appel, sans aucun souci de recevoir ou d'attendre le don du Saint-Esprit pour être fait ministre par lui. Et cela est différent des apôtres et des vrais ministres, et égal et conforme aux faux prophètes et aux séducteurs. Deuxièmement, encore vous n'êtes pas conforme, mais contraire au vrai ministère et au vrai ministre du Christ dans la pratique, car eux étaient conduits par l'Esprit du Père qui habitait en eux, ils prêchaient l'Évangile par l'Esprit, parlaient selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, et parcouraient le monde à travers les nations, convertissant les gens à la connaissance de la vérité. Ce qu'ils avaient touché, goûté, vu et ressenti en eux-mêmes de la parole de vie, ils le déclaraient aux autres et prêchaient l'Évangile qu'ils n'avaient reçu ni d'un homme ni par un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ en eux. Mais votre pratique n'est pas telle, elle est au contraire. Car l'Esprit de ce monde vous conduit, et vous le suivez dans toutes vos œuvres, dans votre prédication, vos prières et tout votre culte, en forme et en tradition, ce que vous avez étudié dans des livres et chez de vieux auteurs, vous le prêchez au peuple, et ce que vous avez noté dans un livre, vous le prêchez au sablier, et non selon que l'Esprit de Dieu vous donne de parler. Vous recherchez et vous vous informez sur de grands revenus, et beaucoup d'argent par an, et là où il y a beaucoup de dîmes et des biens paroissiaux, et choses semblables, c'est là et dans un tel lieu que vous allez et vous cherchez à y être ministre, et vous y demeurez 20 ou 40 ans, plus ou moins selon que vous pouvez vous entendre avec le peuple, et tant qu'il vous donnera assez pour vous contenter et vous entretenir, vos femmes et vos familles, comme vous dites, et vous ne vous souciez pas de savoir si quelqu'un est converti à Dieu par votre prédication, mais... Car vous prêchez les paroles d'autres hommes en répétant des paroles de la Bible, et ce que vous imaginez que leurs paroles, celles des saints, signifient, dans un temps fixe imparti, appuyé sur un coussin moelleux, et vous prêchez au peuple pour de l'argent et pour salaire, telle est votre manière de pratiquer et de faire le ministère dans ces nations. Même Jésus ne prêchait pas ses propres paroles et opinions, de moi-même, je ne puis rien faire, je juge seulement selon ce que j'entends. Jean 5, 30, tout ce que je le dis comme le Père me l'a dit. Jean 12, 49, 50, le Fils ne peut rien faire de lui-même, de son propre mouvement. Mais le Fils ne peut faire que ce qu'il voit faire au Père. Jean 5, 19, celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Jean 7, 18, mais les apôtres ou les ministres du Christ n'agissaient pas ainsi, mais à l'inverse. Par vos fruits et vos œuvres, il apparaît que vous ne suivez pas cet esprit par lequel le Christ et ses ministres étaient conduits, vous n'êtes pas non plus les successeurs légitimes des apôtres. Mais par vos fruits et votre pratique, vous montrez que le Seigneur ne vous a jamais envoyé, et que le Christ ne vous a jamais appelés à son service pour être ses ministres. Car dans toutes vos pratiques et dans toute votre manière de rendre un culte, vous différez et n'êtes pas d'accord, mais êtes contraire à ce qu'était la pratique et le culte des ministres et des églises du Christ au jour des apôtres. Je vous en fais l'accusation, au nom et par l'autorité du Seigneur Dieu, et je puis le prouver contre vous, face à face, ou bien montrer autrement que vous n'êtes pas du même esprit, mais contraire aux saints et aux apôtres d'autrefois, vous n'êtes donc pas leurs véritables successeurs, ni des ministres légitimes du Christ, ce qui sera et doit être manifesté à tous. Troisièmement, vous êtes en désaccord et entièrement contraire au vrai ministère et aux apôtres quant à votre entretien et à vos gages, car le salaire que le Christ accorda à ses ministres était que, dans quelques maisons dignes qu'ils entrassent, ils puissent manger ce qui leur serait présenté, car l'ouvrier, dit-il, mérite son salaire. Et les apôtres ne mangeaient que du fruit de la vigne qu'ils avaient plantée, et du lait du troupeau qu'ils gardaient, par le don libre du peuple qu'ils avaient engendré à la foi. À ceux auxquels ils avaient semé des choses spirituelles, ce n'était qu'une petite chose s'ils moissonnaient leurs choses charnelles. Et bien qu'ils acceptassent un don libre, non sollicité, l'apôtre disait pourtant qu'il ne voulait pas rendre l'Évangile du Christ à charge. Ainsi étaient soutenus et entretenus extérieurement dans le monde, quant aux gages et aux dons, les ministres du Christ et leur ministère. Mais votre pratique et votre entretien ne sont pas comme le Christ l'a dit, ils y sont contraires, comme cela est pleinement manifesté. Car vous voulez qu'il vous soit promis tant par an en dîme, argent, terre paroissiale ou stipend, et cela de la part des ivrognes, des blasphémateurs et des gens mondains profanes, qui ne sont pas des brebis du troupeau du Christ, ni des plants de sa vigne. Vous exigez un pourcentage de chacun d'eux et de tout homme de votre paroisse, et si quelqu'un, soit par cupidité, soit par bonne conscience, ne peut vous payer, vous l'assignez en justice et le jetez en prison pour des gages. Vous saisissez les biens en prenant le triple de la valeur, parfois même le quintuple en dommages double astérisque, et c'est par la violence, l'injustice et la cruauté que vous êtes entretenus de cette manière, et non comme l'étaient les vrais ministres et apôtres du Christ, mais d'une façon tout à fait contraire, comme cela est mon. Astérisque, commentaire de l'éditeur du site, parce que les Quakers refusaient souvent de payer des amendes pour des accusations injustes, CAD. Le refus de payer les dîmes à la paroisse locale, allant en prison pour éviter de donner de la crédibilité à ces accusations injustes, le Parlement adopta une loi permettant aux prêtres paroissiales locales de saisir les biens personnels des Quakers pour les amendes et les dîmes arriérées, appelant cela « spoliation des biens », terme que les armées utilisaient lorsqu'elles pillaient des peuples conquis. Marchandises des boutiques, meubles des maisons, outils agricoles, récoltes, animaux, tout ce qui pouvait être emporté était pris. Si les Quakers n'étaient pas restés unis comme un peuple aimant, partageant généreusement avec tous ceux qui avaient été dépouillés, la vie aurait été presque impossible pour des dizaines de milliers de premiers Quakers, privés de toutes leurs possessions par des prêtres et ministres avides, muets comme des chiens stupides, qui faisaient la guerre à ceux qui ne mettaient pas de nourriture dans leur bouche. Le livre des Hébreux nous dit que cette même spoliation des biens a été subie par des membres de l'Église primitive. Le Seigneur n'ordonne certainement pas ses œuvres de ténèbres, mais il utilise ses persécutions pour amener beaucoup à la perfection. Quatrièmement. Encore, vous ne suivez pas les apôtres et les vrais ministres du Christ, mais vous leur êtes contraires en doctrine, comme le manifestera clairement le volume qui suit, recueilli dans ce but même de vos propres bouches et de vos plumes, afin que tous les hommes voient ce que vous êtes et ce que vous tenez et professez, et cela étant fidèlement exposé et répondu, que vous-même, ainsi que tous les hommes sobres, compariez vos doctrines et vos paroles avec les doctrines des apôtres, et vous verrez que vous n'êtes pas en accord avec eux mais contraires à eux. Maintenant, amis, à vous tous qui vous professez ministres de l'Évangile, je vous déclare par la présente, au nom et par l'autorité du Seigneur, que nous avons controverse avec vous, et une grande accusation contre vous en toutes ces choses, dans votre appel, dans votre pratique, dans votre entretien et dans vos doctrines, le Seigneur a ouvert nos bouches, et elles ne peuvent être fermées pour ne pas déclarer et crier contre vous, comme contre ce que le Seigneur n'a jamais envoyé, mais qui sont contraires au Christ, à ses prophètes et à ses apôtres, dans toutes vos voies. Maintenant, lecteur, quiconque lira ce volume qui suit, si ton esprit est sobre et ton cœur droit envers Dieu, tu pourras parvenir à une bonne compréhension du fondement et de la cause de cette grande controverse entre les prêtres et les professants de cette nation, et nous qui, par dérision, sommes appelés Quakers, car cela n'est pas inconnu des nations. De ce grand débat et de cette bataille, qui dure depuis quelques années dans cette nation, nul ne peut être ignorant. Que d'emprisonnement, que de persécution, que de prédication et d'imprimés contre nous, et que de rapports et de diffamations ont parcouru cette nation ces dernières années. Les Quakers, ainsi nommés, ont écrit, parlé et imprimé contre les prêtres, leurs cultes, leurs voies et leurs doctrines, et ils ont déclaré contre eux comme contre des séducteurs et de faux prophètes, et comme contre ceux que Dieu n'a jamais envoyés. D'un autre côté, ainsi les prêtres, et plus abondamment, ont crié contre les Quakers et imprimé contre eux, les traitant d'hérétiques, de séducteurs, de sorciers, et de tout ce qu'ils pouvaient dire de mauvais. Ces choses n'étant pas inconnues, mais publiquement accomplies, il sera bon de découvrir à chacun le premier fondement et la cause de cette grande crêle, sa matière et son commencement, afin que tous connaissent la certitude de ces choses et sachent qu'elles ne sont pas sans bon fondement ni sans raison suffisante de notre part, à savoir que nous avons une juste cause d'agir et de lutter contre cette génération de prêtres et de docteurs, et que nous ne faisons rien à la légère, ni sans raison suffisante. Il y a maintenant environ 7 ans que le Seigneur nous a suscités dans le nord de l'Angleterre et a ouvert nos bouches dans son esprit, et ce que nous étions auparavant dans notre religion, notre profession et nos pratiques est bien connu dans cette région du pays. Généralement, nous étions des hommes de la secte la plus stricte et du plus grand zèle dans l'accomplissement de la justice extérieure, et nous avons suivi et éprouvé toutes sortes de docteurs, courant de montagne en montagne, d'homme en homme, d'une forme à une autre, comme font beaucoup jusqu'à. Tels nous étions, pour n'en pas dire davantage, nous qui cherchions le Seigneur et désirions la connaissance de ses voies plus qu'aucune autre chose. Je parle comme quelqu'un qui, dès l'enfance, même à quelques années, a tourné son visage pour chercher et trouver le Sauveur et qui, plus que la vie et le trésor ou toute couronne mortelle, a cherché de tout son cœur la seule chose nécessaire, à savoir la connaissance de Dieu. Après notre longue recherche, le Seigneur nous est apparu, a révélé sa gloire en nous, nous a donné de son Esprit du ciel et l'a répandu sur nous, et nous a donné de sa sagesse pour nous guider. Par là, nous vîmes le monde entier, le véritable état des choses, et la véritable condition de l'Église dans son état présent. Le Seigneur nous a conduits par sa puissance et sa sagesse, et par la parole par laquelle toutes choses ont été faites, à connaître, comprendre et voir parfaitement que Dieu avait donné à chacun de nous en particulier une lumière venant de lui-même, brillant dans nos cœurs et nos consciences. Lumière dont le Christ, son Fils, le Sauveur du monde, a éclairé tout homme, et cette lumière en nous, nous l'avons trouvée suffisante pour nous reprendre et nous convaincre de toute mauvaise action, parole et pensée, et par elle en nous, nous en vint. Cette lumière nous donna de discerner entre la vérité et l'erreur, entre toute voie fausse et la voie droite, et elle nous découvrit parfaitement l'état véritable de toutes choses, et par elle nous en vint à connaître l'homme, ce qu'il était dans sa création avant la transgression, comment il fut trompé et vaincu par le diable, son état dans la transgression et la désobéissance, et comment il est chassé et banni de la présence du Seigneur, ainsi que la douleur et l'angoisse dans lesquelles il se trouve et qu'il doit subir. Aussi, par la lumière en nous, nous en vîmes parfaitement à connaître la voie de la restauration, les moyens d'être restauré, et l'état de l'homme lorsqu'il est sorti de la transgression et restauré. Ces choses nous furent révélées par la lumière au-dedans de nous, que le Christ nous avait donnée et dont il nous avait éclairé, ce qu'était l'homme avant la transgression, ce qu'il est dans la transgression, et ce qu'il est lorsqu'il est racheté hors de la transgression. De même, à mesure que nos esprits se tournaient, que nos cœurs s'inclinaient vers la lumière qui brillait en chacun de nous, nous en vînmes à connaître l'état parfait de l'Église, son état avant les jours des apôtres, aux jours des apôtres, et depuis les jours des apôtres, et nous avons trouvé son état présent semblable à celui d'une femme qui avait autrefois été vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et qui enfanta celui qui devait gouverner les nations, mais elle s'est enfuie dans le désert et là se tenait assise désolée dans la... Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Ainsi toutes ces choses concernant l'homme, concernant les temps et les saisons, le changement et le renouvellement des temps, et toutes choses qui appartiennent au salut, à la rédemption et à la vie éternelle, qu'il est nécessaire que l'homme connaisse, tout cela nous a été révélé, découvert et manifesté par la lumière qui était en nous, dont le Christ nous avait éclairé. Nous avons trouvé cette lumière être un maître suffisant pour nous conduire à Christ, d'où venait cette lumière, et par elle, il nous fut donné de recevoir Christ et d'en rendre témoignage, d'en faire l'expérience comme demeurant en nous, et par elle nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, pour devenir héritiers de la vie et du salut. En toute chose, nous avons trouvé que la lumière dont nous étions éclairés, qui est Christ, était seule et entièrement suffisante pour conduire à la vie et au salut éternel, et que tous ceux qui reconnaissaient la lumière en eux, dont le Christ a éclairé tout homme, n'avaient besoin d'aucun homme pour les enseigner, mais que le Seigneur était leur maître, par sa lumière dans leur propre conscience, et qu'ils recevaient la sainte onction. Ainsi nous avons cessé de suivre les enseignements de tous les hommes, leurs paroles, leurs cultes, leurs temples, et tous leurs baptêmes et leurs églises, et nous avons cessé de suivre nos propres paroles, professions et pratiques en religion, que nous avions autrefois accomplies avec zèle à travers diverses formes, et nous sommes devenus fous pour l'amour du Christ, afin de devenir véritablement sages. Par cette lumière du Christ en nous, nous avons été conduits hors de toutes les voies fausses et de toutes les fausses prédications, loin des faux ministres. Nous nous réunissions souvent et attendions le Seigneur dans un silence pur, loin de nos propres paroles et de toutes les paroles des hommes, écoutant la voix du Seigneur et sentant sa parole dans nos cœurs, pour consumer et abattre tout ce qui était contraire à Dieu. Nous obéissions à la lumière du Christ en nous, suivions les mouvements du pur esprit du Seigneur, et nous prenions la croix contre toutes les... Tandis que nous attendions le Seigneur en silence, comme nous le faisions souvent durant de nombreuses heures d'affilée, l'esprit et le cœur tournés vers lui, demeurant dans la lumière du Christ au-dedans de nous, loin de toute pensée, mouvement charnel et désir, dans notre attente diligente et dans la crainte de son nom, et en prêtant l'oreille à sa parole, nous recevions souvent l'effusion de l'Esprit sur nous, et le don du Saint-Esprit éternel de Dieu, comme au jour d'autrefois, nos cœurs étaient rendus joyeux, nos langues déliées, nos bouches ouvertes. Ainsi les choses profondes de Dieu nous furent révélées, et des choses inexprimables furent connues et rendues manifestes, la gloire du Père fut révélée, et alors nous commençâmes à chanter des louanges au Seigneur Dieu Tout-Puissant et à l'Agneau à jamais. Lui qui nous avait rachetés pour Dieu, nous avait tirés de la captivité et de la servitude du monde, et avait mis fin au péché et à la mort, et tout cela fut par, à travers et dans la lumière du Christ au-dedans de nous. Bien davantage pourrait en être déclaré, chose qu'on ne pourrait croire si on les disait, concernant les diverses et particulières opérations et manifestations de l'Esprit éternel qui nous a été donné et révélé en nous. Mais voici la somme, la vie et l'immortalité furent mises en lumière, la puissance d'en haut et la sagesse furent manifestées, et le jour éternel nous apparut, le joyeux soleil de justice se leva et brilla pour nous et en nous, et nous reçûmes la sainte onction, le consolateur éternel, l'enfant de gloire naquit, et l'héritier de la promesse fut produit pour régner sur la terre, et sur l'enfer et la mort, par lui nous entrâmes dans l'union éternelle, la communion et l'alliance avec le Seigneur Dieu, dont les miséricordes sont certaines. Nous fûmes relevés de la mort à la vie, transférés de la puissance de Satan à Dieu, rassemblés loin de tous les bergers muets et de toutes les montagnes stériles, dans l'enclos de la paix et du repos éternel, et le Seigneur a accompli pour nous et par nous des choses puissantes et merveilleuses, par son propre bras étendu. Ainsi sommes-nous devenus des disciples de l'Agneau partout où il va, et il nous a appelés, pour l'amour de son nom, à faire la guerre en justice contre l'enfer et la mort, et contre toutes les puissances des ténèbres, et contre la bête et le faux prophète qui ont séduit les nations. Nous sommes de la semence royale élue, choisie et fidèle, et nous combattons dans la vérité et le juste jugement, non avec des armes charnelles, mais par l'épée qui sort de sa bouche, qui tuera les méchants et les mettra en pièces. De cette manière fut notre naissance, ou notre venue au monde, et ainsi le Seigneur nous a choisis et a fait de nous une armée redoutable et terrible, devant laquelle les méchants ont peur et tremblent. Notre étendard est la vérité, la justice, la droiture et l'équité, et tous ceux qui viennent à nous doivent s'y attacher et combattre sous cette bannière sans crainte et sans douter, et ils ne seront jamais confus ni mis en fuite, ils ne seront jamais vaincus par l'enfer ou la mort, ni par les puissances des ténèbres, mais le Seigneur sera leur armure, leur arme et leur... Ceux qui suivent l'agneau vaincront et remporteront la victoire sur la bête, sur le dragon et sur les portes de l'enfer, car le Seigneur est avec nous, et qui pourra nous effrayer. Lui, nous ayant ainsi armés de puissance, de force, de sagesse et de domination selon sa pensée, et nous ayant instruits et enseignés en toutes choses, et nous ayant choisis pour son œuvre, il mit son épée dans notre main astérisque et nous donna une commission parfaite pour sortir en son nom et par son autorité, ayant de sa bouche la parole indiquant ce qu'il faut abattre et ce qu'il faut préserver, ayant l'évangile éternel à prêcher aux habitants de la terre, et étant commandé en esprit de tout quitter, de le suivre et de sortir pour. Astérisque commentaire de l'éditeur du site. Concernant « et il nous ayant choisi pour son œuvre, et mis son épée dans notre main », cela signifie que le Seigneur donne à ses ministres choisis les paroles à dire immédiatement avant qu'ils n'ouvrent la bouche. Ces paroles abattent et mettent à mort la méchanceté chez les auditeurs visés, parce que les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur, entendues puis immédiatement prononcées par ses ministres, sont plus tranchantes qu'une épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Tous les vrais ministres du Seigneur, purifiés par lui, rendus parfaits par lui, autorisés par lui et envoyés par lui, ne parlent que des paroles issues de la bouche du Seigneur, car ceux qui sont en unité avec le Christ n'ont qu'une seule bouche. L'arme d'un vrai fil de Dieu est l'épée de l'esprit, des paroles à prononcer telles qu'entendues de la bouche du Seigneur, mais les fils illégitimes, par présomption, ne peuvent que citer la Bible et parler depuis leur esprit charnel, cherchant leur propre gloire. Car lorsque nous regardions au dehors et contemplions le monde, voici, ce n'était que ténèbres, comme un désert désolé et stérile de tout bon fruit. Et la mort régnait sur les hommes, et nul bon fruit n'était porté pour Dieu, mais nous ne voyions que des feuilles sur chaque âme. Tous les hommes et tous les peuples avaient été enivrés du vin des prostitutions, et ils avaient bu la coupe de la prostituée, et se livraient à la fornication avec la grande prostituée, et elle régnait sur les rois et les peuples de la terre. L'Antichrist avait été établi dans le temple de Dieu, régnant sur tous, ayant soumis les nations à son pouvoir, et établi son gouvernement sur tous durant de nombreux âges, car dès les jours des apôtres et des véritables églises, il a régné, tandis que la femme s'était enfuie au désert, et que l'enfant mâle avait été enlevé vers Dieu. Christ a dit que l'Antichrist viendrait, de faux prophètes et qu'il revêtirait l'habit de brebis, tout en étant intérieurement un loup ravisseur. Et Jean a vu que l'Antichrist était venu en séjour, et qu'alors il était sorti de la véritable église, était allé dans le monde, et avait séduit le monde, et depuis lors son royaume a régné sur les nations, car alors il commença à s'exalter, et cela fait 1600 ans. Pendant tout ce temps l'Antichrist a eu l'habit de brebis, mais intérieurement il est ravisseur, et il a dominé et régné. Cela nous l'avons vu et perçu au temps même de notre naissance et de notre venue au monde, et nous avons vu les nations comme un désert non cultivé, et les cœurs des hommes comme une terre en friche, non rompus, ni labourés, ni semés de la bonne semence du royaume de Dieu. Ainsi nous avons vu tous les états et ordres d'hommes corrompus et dégénérés de ce qu'ils devraient être et de ce que Dieu les avait autrefois ordonnés être. Quant au ministère, premièrement, nous le considérons d'un œil simple, dans la lumière de l'Esprit de Dieu qui nous avait oint, nous l'avons vu clairement ce sur quoi auparavant nous butions avec grand doute, que ce ne fut pas le ministère parfait de Christ pendant de nombreuses années, n'être pas de Christ ni envoyé par lui, ni avoir la commission, la puissance et l'autorité de Christ, comme son ministère les avait au jour des véritables églises, mais en toute chose quant à l'appel, à la pratique, à l'entretien et en tout le reste. De même, nous l'avons réellement vu être dans l'appel, la pratique et l'entretien, et en toute chose exactement le même quant aux fruits et aux effets que le faux ministère et les faux prophètes et les faux apôtres et les trompeurs d'autrefois. J'en rends témoignage, et je puis le prouver dans l'esprit et l'autorité du Seigneur, le ministère public, tel qu'il se tient aujourd'hui généralement, est entièrement dégénéré de ce que fut jadis le véritable ministère de Christ. Il diffère, et il est contraire en toute chose à ce que furent les ministres de Christ, et il s'accorde, et il est égal en toute chose à ce que furent les faux prophètes et les trompeurs à travers tous les âges. Je lui en fais l'accusation, à la face et aux yeux de tous les hommes à qui ceci pourra parvenir, car c'est ce que nous en vîmes au commencement, et ce fut notre première assurance. Quant aux autres lieux et ordres d'hommes et vocations, nous les avons vus aussi corrompus et dégénérés, et le mal et l'iniquité abondaient parmi toutes sortes de gens, et l'aveuglement et les ténèbres couvraient la face de la terre et du monde, et tous les peuples étaient dans leur transgression, et rendaient vaine la loi de Dieu, et que le temps était venu pour le Seigneur d'agir, et de se lever pour se soulager de ses adversaires. Quant à toutes les églises, ainsi dites, et professions et rassemblements de gens, nous vous avons vu tous dans l'apostasie et la dégénérescence loin de la véritable Église, n'étant pas rassemblés par l'Esprit du Seigneur, ni loin par lui, comme les véritables membres de Christ l'ont toujours été, mais étant dans une forme, et dans des formes de justice sans la puissance, et dans des imitations sans vie ni connaissance parfaite. Ainsi, toutes les pratiques de religion que nous avons vues étaient sans puissance ni vie, bien que certains y eussent une sincérité et un zèle et un désir vers le Seigneur. Pourtant, tous les peuples se trompaient en jugement, et nul n'était conduit en jugement par l'Esprit éternel, et l'erreur de jugement rendait leur zèle aveugle, et leurs œuvres de justice non agréées, bien qu'accomplies avec quelque sincérité et zèle, parce qu'ils n'étaient pas guidés dans la pratique, ni conduits en jugement par l'Esprit du Seigneur, qui seul conduit dans toute la vérité, et nul n'est dans la vérité sinon celui qui n'est conduit que par lui. Ainsi, nous avons vu toute profession n'être que des couvertures de feuilles de figuier, tandis que la nature de la transgression demeurait, sans être condamnée ni crucifiée. Nous vîmes alors aussi, non seulement que l'accomplissement et la pratique, dans l'état ecclésiastique et dans les ordres religieux étaient corrompus, mais aussi que le gouvernement, la magistrature, et toute chose dans l'état civil n'étaient pas justes aux yeux du Seigneur, ni comme le Seigneur l'exigeait, ni comme il l'avait ordonné au commencement. Car le gouvernement, nous le savons tel qu'ordonné par Dieu, est destiné à punir, limiter et effrayer tous les malfaiteurs, et à préserver et défendre tous ceux qui font le bien, et que les consciences des hommes doivent être laissées libres, pour être gouvernées par le Seigneur seul, et guidées par son esprit, et que le pouvoir extérieur et les magistrats civils et les lois ainsi dites, ne doivent pas être seigneurs ni maîtres dans la conscience des hommes, ni sur eux. Mais nous avons vu comment l'injustice et l'iniquité, et le péché et la méchanceté étaient renforcés et encouragés dans le gouvernement, et par ceux qui étaient en autorité, et comment l'exercice d'une bonne conscience dans la crainte de Dieu était abusé, de sorte qu'il était retourné à l'envers de ce qu'il devait être, ceux qui faisaient le bien étaient punis, et limités comme des transgresseurs, et les malfaiteurs étaient relâchés, et nul ne les faisait craindre. Ainsi nous pouvions véritablement crier, « La vérité est tombée dans les rues, et la justice et le vrai jugement sont retournés en arrière, et l'équité n'avait point de place pour entrer, et les innocents étaient dévorés faute de jugement vrai et juste, et les nécessiteuses étaient dépouillées et livrées en proie. » Ainsi cela fut ordonné, car à peine avions-nous ouvert la bouche, que les magistrats commencèrent à nous mettre en prison, et à exercer une grande injustice contre nous, et devinrent des oppresseurs des innocents, et posèrent sur nous de lourds fardeaux injustes, pénibles à porter, et la vraie justice et le vrai jugement furent négligés, et un jugement inique fut produit, et le bon gouvernement fut abusé, et les hommes en autorité n'étaient pas gouvernés par le Seigneur, ni ne gouvernaient pour le Seigneur parmi les hommes. Ainsi cela nous advint, par la corruption et la dégénérescence du gouvernement et des magistrats, que nous vîmes tels, et qui s'accomplirent par eux, à savoir, non comme le Seigneur l'exigeait, ni comme au commencement il l'avait ordonné, mais tout au contraire. Cela nous le vîmes au commencement, lorsque l'Esprit du Seigneur fut répandu sur nous, et que la puissance d'en haut fut révélée pour déclarer contre toutes les abominations de la terre, et faire la guerre à toute corruption, dans tous les ordres et lieux, et parmi les hommes. Alors, étant préparés par le Seigneur, et ayant reçu la puissance d'en haut, nous sortîmes, comme le Seigneur le commandait, laissant derrière nous toute relation et toute chose du monde, afin d'accomplir l'œuvre du Seigneur à laquelle il nous avait appelés. Nous ne consultâmes ni la chair et le sang, ni aucune créature, ni ne prîmes conseil des hommes, mais du Seigneur seul, lui qui leva nos têtes au-dessus du monde et de toute crainte et doute. Il fut avec nous en puissance et en domination sur tout ce qui s'opposait à nous, qui était grand et puissant, et il nous donna pouvoir sur tout cela, et de lier des rois avec des chaînes, et des nobles avec des liens de fer, et c'est là l'honneur des saints. Nous fîmes retentir la parole du Seigneur, sans épargner, et nous fîmes entendre les sourds, voir les aveugles, et réveiller le cœur endurci, et la crainte du Seigneur allait devant nous et derrière nous, et la terreur saisit nos ennemis. Avant tout, nos bouches furent ouvertes, et nos esprits remplis d'indignation contre les prêtres et les docteurs. Avec eux et contre eux nous commençâmes d'abord la guerre, comme étant les sources par lesquelles le peuple s'égarait, les guides aveugles qui entraînaient les aveugles dans le fossé, la fontaine de toute méchanceté abondant dans les nations, et comme l'issue de la profanation. Car d'eux est sortie la profanation dans toutes les nations, et contre eux nous criâmes à haute voix, ayant été rachetés de leur bouche qui avait fait de nous leur proie, comme ils le font de tous ceux qui suivent leur voie. Dans les églises à clocher nous leur rendîmes souvent visite, et dans les marchés et autres lieux, selon que le Seigneur nous y poussait et nous en ouvrait la voie, leur montrant, à eux et à tout leur peuple, qu'ils n'étaient pas des ministres légitimes de Christ envoyés par lui, mais des trompeurs et des antichrists, et de ceux que le Seigneur n'a jamais envoyés. Nous n'épargnâmes pas, publiquement et en toute saison, de proclamer les jugements du Seigneur contre eux et leur voie, et contre leurs églises, leurs cultes et leurs pratiques, comme n'étant pas de Dieu ni commandés par lui, et par lesquels ils trompaient le monde. Ce fut notre première œuvre, dans laquelle nous entrâmes, battre les trompeurs, et les mettre à nu, afin que tous les peuples voient leur honte, se détournent d'eux, et reçoivent la connaissance de la vérité, afin d'être sauvés. Nous fîmes cela non sans grande opposition ni danger, Oui, souvent nos vies furent en danger à cause des coups, des mauvais traitements, des punitions, des traînements, des jets par-dessus les murs, des coups de bâton et de gourdin, et des coups qui nous jetaient à terre, sans compter les reproches, les mépris, les injures, les huées, les moqueries, les calomnies, et tous les outrages que des mains et des langues mauvaises pouvaient imaginer ou commettre. Souvent nous fûmes traînés devant les magistrats, avec de graves menaces, et parfois mis au cep, et fouettés, et souvent emprisonnés, et l'on usa contre nous de nombreuses duretés, les pires que des langues ou des mains puissent exécuter, en nous épargnant la vie. De cela, tous les pays du Nord peuvent témoigner, et toutes ces choses sont supportées et subies de la part du peuple et des gouvernants, à cause de notre fidélité au Seigneur et pour avoir déclaré contre les trompeurs. Car rien, sinon la main du Seigneur et sa puissance, n'aurait pu nous préserver et nous faire traverser tout cela. Et ce n'est pour aucune récompense extérieure, ni pour aucun avantage personnel, que nous nous serions exposés à cette violence, à ces souffrances et à ces dangers qui nous survenaient chaque jour. Mais le Seigneur était notre très grande récompense au travers de toutes ces choses, et il nous gardait dans le creux de sa main, et sous l'ombre de ses ailes, et il nous donnait, en esprit, domination sur tous nos ennemis, et les soumettait devant nous. Quoique les gouvernants et le peuple fussent ligués contre nous, et exerçassent sur nous leur injustice et leur violence, le Seigneur pourtant nous fit prospérer et croître extraordinairement en force, en sagesse et en nombre, et les cœurs du peuple étaient inclinés vers nous, et le témoignage de Dieu en beaucoup s'éveillait pour nous, car c'est à cela dans toutes les consciences que par nos paroles, nos souffrances et nos voix, nous nous recommandions d'être connus et approuvés. Au commencement, nous n'étions qu'un petit nombre, seulement quelques-uns ainsi poussés et traités, et qui avaient reçu la puissance d'en haut dans une telle mesure, et pour une telle œuvre. À peine le Seigneur nous eut-il apparu, et avec nous, que le diable et sa puissance se levèrent contre nous pour nous détruire, et cela agissait dans les gouvernants, les prêtres et le peuple, et toutes les voies et tous les moyens inventés par le diable, que ses serviteurs pouvaient exécuter, furent déployés pour éteindre l'œuvre du Seigneur et arrêter notre marche dans ce à quoi nous étions appelés. Si vous vouliez connaître parfaitement, comme nous l'avons parfaitement constaté, la ruse, la politique et la méchanceté du diable, comment il voulait vaincre ce nouveau-né, et déraciner à jamais cette plante nouvellement sortie de terre, cela vous ferait admirer et vous étonner. Tous les prêtres et les gouvernants étaient en tumulte. Les prêtres adressaient des pétitions aux magistrats, couraient ça et là d'une session et d'une juridiction à l'autre, prenaient des serments impies, et calomniaient les justes par des mensonges et des reproches, dans le but d'exciter tout le peuple contre nous. Les magistrats délivraient des mandats pour en arrêter certains, et donnaient ordre de dissoudre nos assemblées, et que nous ne nous réunissions pas la nuit, et que de tels hommes ne puissent voyager. Et on souleva contre nous un tel tumulte et une telle opposition qu'on peut à peine les exprimer ni les déclarer. Il y eut des émeutes dans les églises à clocher et des émeutes dans les marchés, et souvent on nous traînait devant les magistrats. On nous maltraitait, on nous menaçait, on nous calomniait, et toutes sortes de mal étaient faits et dits contre nous, et une grande injustice, cruauté et oppression furent exercées envers nous partout où nous venions, et tout cela par le moyen des prêtres, qui ne s'abstenaient pas de concevoir et d'exécuter des méfaits contre nous, et qui sollicitaient chaque jour des magistrats la persécution. Ils prêchaient en leur chair, priant contre nous, et fixant des jours à part pour chercher leur Dieu contre nous, criant sans cesse en public et en privé, hérésie, erreur et blasphème, disant que nous étions des trompeurs, des sorciers et des séducteurs, et autre chose semblable, tout ce qu'ils pouvaient dire et imaginer de pire pour soulever le cœur du peuple contre nous. Ils couraient souvent aux assises et aux sessions, et aux tribunaux pour se plaindre, et déposer sur de faux serments contre nous. Et par leurs moyens tout le pays était en rage et en folie, gouvernant et peuple nous emprisonnant souvent, nous maltraitant, et nous résistant avec violence, nous bannissant des villes, nous chassant de nos auberges, et souvent menaçant de brûler les maisons au-dessus de nos têtes, la foule grossière d'une ville se rassemblant souvent et assiégeant une maison ou une auberge autour de l'endroit où nous étions entrés pour loger, dans nos voyages. Souvent nous fûmes exposés à des voyages et des cheminements difficiles et pénibles, nous livrant à la croix, la prenant contre tout ce qui était terrestre, souvent buvant de l'eau et couchant sur de la paille dans des granges, après une dure journée de marche. Et pourtant, dans toutes ces choses, la puissance et la présence du Seigneur étaient avec nous, et nous avancions avec grande hardiesse et fidélité, avec courage, sans crainte ni doute. Souvent nos vies furent en danger de bien des manières, dans les émeutes, par des hommes mauvais dans les marchés et les églises à clocher, et aussi en voyage par des brigands, et de toute façon nous fûmes exposés à des dangers et des périls, mais à travers tout, et par-dessus tout nous fûmes portés, et nous sommes préservés jusqu'à ce jour. C'est ainsi que les choses nous arrivèrent. Bien davantage pourrait être dit, mais ceci déclare brièvement comment nous fûmes traités et menés par les prêtres, les gouvernants et le peuple, dans tous les comtés du nord de l'Angleterre, lors de notre première sortie, ces comtés par lesquels nous voyageâmes d'abord en sortant de Westmoreland à travers Cumberland, Northumberland, et dans certaines parties de l'Écosse, Durham, Yorkshire, Lancashire, Cheshire, etc. Dans tous ces comtés, nous rencontrâmes beaucoup d'opposition et d'excessives souffrances et des traitements cruels de la part d'hommes de toutes sortes. Chaque prison peut témoigner, dans chaque comté, que rarement elles furent sans quelques-uns de nous ou de nos amis emprisonnés en elles durant ces 6 années. Et il n'est guère une église à clocher ni un marché dans tous ces comtés qui ne puisse témoigner quels coups, quels hématomes, quels coups portés au corps, quels traînements devant les tribunaux, quels abus et quels périls nous avons soufferts et endurés. Pas un prêtre, dans tous ces comtés, ne peut se disculper de haine et de malice, et de nous envier et de faire du mal en parole et en acte, ou en pensée ou en désir contre nous. Ni guère un juge de paix, ni aucun officier ne peut être excusé dans tous ces comtés d'avoir comploté et commis de l'injustice contre nous, et d'avoir menacé et exercé la cruauté contre nous. J'en prends le ciel et la terre à témoin, ainsi que la lumière dans la conscience de chaque homme, et j'en appelle à cela, en toutes sortes de gens, que par toutes sortes nous avons souffert le mal, et des paroles et des actes injustes de leur part. Que le témoignage de Dieu dans les consciences de tous les hommes, dans tout le Nord, rende témoignage des traitements et des cruautés que nous avons subis, et de la manière dont on nous a traités, ainsi que de notre patience et de notre innocence sous tout ce qu'ils nous ont fait. Commentaire de l'éditeur du site. Le christianisme d'Angleterre emprisonna plus de 15 000 Quakers, plus de 869 Quakers moururent en prison, d'autres moururent après que des foules chrétiennes les eurent attaqués lors de leurs réunions silencieuses, et des dizaines de milliers de Quakers se virent piller leurs biens. Ils furent punis pour avoir refusé de prêter serment, comme l'interdisent les commandements de Jésus et de Jacques, pour ne pas ôter leur chapeau au tribunal, pour voyager le jour du sabbat, pour tenir des réunions non conformes à la liturgie épiscopale, et pour refuser de payer la dîme à la secte chrétienne de leur voisinage, même lorsqu'ils ne fréquentaient pas cette secte. Les puritains d'Amérique, qui croyaient à la Bible, emprisonnèrent les Quakers, les fouettèrent brutalement, leur coupèrent les oreilles, et en pendirent 4, dont une femme. Il fut donné à la bête de vaincre les saints, Actes 13-7. Pourtant les Quakers ne firent jamais de mal à personne, et prièrent pour leurs persécuteurs jusque dans la mort. Des brebis tuent-elles des loups? Non. Les loups tuent les brebis. Et ainsi les loups du christianisme tuèrent les brebis Quakers de Christ, comme Jésus l'avait prédit. Oui, l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu. Jean 16-2. Le christianisme était devenu, et demeure encore, la prostituée de Babylone, ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Lorsque la véritable Église de Christ sortira du désert pour être de nouveau vue et entendue, le christianisme désignera ce passage de l'Écriture et prétendra que l'Esprit de Christ est l'Esprit de Satan en habit de brebis. Et malgré l'Écriture déclarant clairement, il y a 2000 ans que la fin des temps est et que des antichrists avaient paru, le christianisme dira de nouveau que c'est la fin des temps et que l'antichrist vient juste d'apparaître. Le christianisme persécutera de nouveau la véritable Église de Christ, mais cette fois, lorsque les persécutions cesseront, les saints seront vengés, Babylone tombera, tout péché sera purgé de la terre, et d'après la parole du Seigneur au-dedans, les saints se répandront et peupleront toute la surface de la terre. Mais malgré tout ce qui fut fait contre nous et dit, plusieurs centaines de gens honnêtes et sobres nous reconnurent, et aussi beaucoup de personnes grossières et impies furent converties à la vérité. Je dis que plusieurs centaines, dans tous ces comtés, en 2 ans, furent conduites à la connaissance du Seigneur et à nous reconnaître. Pendant tout ce temps, nous avons travaillé et voyagé avec patience, nous livrant à vivre ou à mourir, et à toutes sortes de souffrances et de reproches, et de dures épreuves, afin d'accomplir fidèlement ce à quoi nous étions appelés. Souffrance au dehors, de la part d'ennemis déclarés et de notre propre parenté et de nos relations, et souffrance au dedans, à cause de la semence, toutes ces choses nous rendirent fort familiers des douleurs. Pourtant, dans nos épreuves et afflictions, le Seigneur ne nous abandonna jamais, mais sa sagesse, son amour, sa vie et sa présence augmentèrent en nous et avec nous. Puis, en l'année 1654, poussés par le Seigneur, nous répandîmes vers le sud et entrâmes dans ses régions méridionales. Et les premiers d'entre nous arrivèrent dans cette ville de Londres, au 5e mois de cette année-là, et travaillèrent à l'œuvre de l'Évangile, dans des souffrances et des oppressions continuelles de diverses manières. Et nous fûmes opprimés et contredits par les sages, et par les savants, tenus en reproche et en mépris par tous les professeurs hautains, élevés et orgueilleux, et nous fûmes tenus pour rien et rejetés par les bêtes gras. Il est bien connu de milliers dans cette ville et dans les contrées du Sud, quelle opposition nous avons rencontrée de la part de toutes sortes de gens, contredits dans nos propres réunions, et tournés en dérision, et calomniés par des langues envieuses et injurieuses, affrontés publiquement et en privé par tous les plus sages de la ville et du pays, provoqués, invités et engagés à des disputes par les grands prêtres et les membres d'église ainsi dit, attaqués par écrit et par l'imprimé par les principaux hommes réputés sages et religieux. Quelle secte et quel plus sage dans la profession, et quel plus zélé dans les pratiques de religion ainsi dites, n'ont pas, à un moment ou un autre, cherché à nous cerner et à nous affronter dans de hautes disputes et controverses. Lesquels d'entre eux ne nous ont pas contredits en face, s'opposant à notre doctrine et à nos pratiques, nous niant et nous résistant entièrement, et criant contre nous que nous étions des trompeurs, des illusionnistes, des hérétiques et des blasphémateurs, et choses semblables, et que nos doctrines étaient trompeuses et erreurs et factieuses et que sais-je encore, et que nos pratiques étaient destructrices pour les hommes, les lois et le gouvernement. Ces choses, sous leur pire forme, ont été dites contre nous sans cesse, par les plus sages et les hommes de plus grand talent et les plus religieux faussement ainsi estimés, durant ces années certaines, dans le Sud, aussi bien que dans le Nord. En outre, quelles pertes avons-nous subies d'autre manière dans le Sud, par les coups, les frappes, les mauvais traitements, les calomnies, les faux reproches, les traînements devant les magistrats, l'emprisonnement, et tous les procédés semblables de la part des prêtres, des gouvernants et du peuple. Oui, nous avons souffert, et souffrons chaque jour, des mêmes duretés et cruautés de la part de toutes sortes de gens que dans le Nord. À tel point que nous sommes maintenant accoutumés au joug, et bien familiers des chagrins et des douleurs venant de toutes sortes de gens. Si le Seigneur n'était pas de notre côté, nos ennemis nous engloutiraient bien vite, et nous aurions depuis longtemps été dévorés par les dents des impies. Ainsi puis-je maintenant t'appeler à témoin toutes les geôles et prisons du Sud, comme celles du Nord, ainsi que tous les magistrats, juges et gouvernants, et tous les officiers de la loi, des souffrances que nous avons endurées, et des traitements cruels et durs que nous avons subis, et des injustices, et du jugement inégal et faux exercé sur nous durant ces 5 années. Quelle prison peut paraître libre, où quelques-uns de nous n'aient pas subi injustement la perte de leur liberté? Quel juge de paix, ou autre officier, du juge au constable, peut se disculper de culpabilité en cette affaire et n'avoir pas eu part à nos souffrances injustes? J'en appelle au témoignage de Dieu en tous les gens de toutes sortes, dans toute cette nation et quelques autres, touchant cette affaire, comment on nous a traités, et ce que nous avons enduré dans nos personnes et dans nos noms, et combien d'actes et de paroles de cruauté et d'injustice nous avons portés et souffert. Ces prêtres ont été comme la fontaine et la cause de tout cela, et les premiers en toute cette iniquité et injustice, par tout ce qu'ils pouvaient faire pour exciter les gouvernants et le peuple contre nous, par la prédication, la prière, l'écriture et l'imprimerie, durant ces 7 années. Nonobstant tout cela, la puissante présence et puissance du Seigneur a été avec nous, et nous a préservés de grands et nombreux dangers, et nous a fait traverser des épreuves, des perplexités et des souffrances, et non seulement cela, mais il nous a augmentés en nombre, de sorte que des milliers et des dizaines de milliers nous reconnaissent et peuvent nous reconnaître, ainsi que la vérité dont nous rendons témoignage et dans laquelle nous vivons. Car les yeux de tous les peuples commencent à s'ouvrir, et l'oreille sourde se débouche, et le chemin de la vie éternelle est manifesté, et le Seigneur rassemble son troupeau, qui avait été dispersé au jour nuageux et sombre, tandis que ces faux pasteurs oisifs, ces prêtres et docteurs, je veux dire, se sont nourris de la graisse, se sont vêtus de la laine, se sont couchés dans l'assoupissement, et n'ont pas rassemblé le troupeau ni l'ont nourri, mais l'ont dispersé et chassé, et avec force et cruauté ils l'ont dominé sur l'héritage du Seigneur. Malheur, malheur à ces pasteurs, dit le Seigneur Dieu, ils seront confondus et couverts de honte à perpétuité, ils seront abattus et ne seront jamais rebâtis, et le Seigneur les arrachera par les racines, et ils ne seront plus jamais replantés. Outre toutes leurs pétitions aux magistrats contre nous, et leurs prédications et prières contre nous, et tout le mal et la méchanceté en œuvre, en parole et en désir, qu'ils ont produit contre nous de temps à autre, ici lecteur sobre, tu as un catalogue et le nombre entier des livres imprimés et écrits contre nous, et abondance de leurs doctrines proférées contre nous et en opposition à nous, rassemblées dans ce volume en un résumé avec nos réponses, et si ton cœur et ton esprit sont simples, tu pourras par là comprendre en quelque mesure. Si tu es impartial en cette affaire, et simple dans cette recherche et ce jugement, je ne doute pas que tu ne te satisfasses en grande partie, et que tu ne sois résolu concernant les prêtres et professeurs d'Angleterre, et nous que l'on appelle Quakers. Quand tu auras fait cela, reconnais et rejette ou nous, selon que le Seigneur te persuadera, car tu peux pleinement percevoir que nous différons en doctrines et en principes, et l'un tu dois le justifier, et l'autre tu dois le condamner, l'un étant contraire à l'autre en principe. Je souhaite aussi que tu nous mesures, et nous compares dans la vie et la conduite, et que tu juges véritablement si ou nous suivons Christ et ses apôtres dans la pratique et la conduite. En toute chose mets-nous, usez-nous à l'aune du vrai jugement, et avec un cœur droit juge en conséquence, car sache ceci, il n'est aucun principe que nous tenions, ni aucune œuvre que nous pratiquions dans notre religion et notre culte, que nous ne soyons disposés, et ne désirions pleinement voir amenés au tribunal de la vraie justice, et en chaque particulier de principe et de pratique, examinés et éprouvés jusqu'au bout. Chacun de nous juger en vérité et en équité, pour savoir si ce sont eux ou nous qui sommes de la vraie religion, de la vraie foi et du vrai culte de Dieu, tel que les apôtres l'étaient, et lequel de nous est dans une voie fausse et dans une fausse religion, une fausse foi et un faux culte. En cela nous nous joindrons à eux pour soutenir la contestation, aux yeux de toute la nation, s'ils veulent venir à l'épreuve si ce qui a déjà été produit par eux contre nous, et par nous contre eux, durant ces 7 années, en dispute, en imprimé et autrement, n'est pas suffisant pour que tous les peuples nous éprouvent et nous jugent, pour savoir si nous sommes dans le vrai. À présent, j'en appelle à ce qui est de Dieu dans les consciences de tous les peuples de la nation, pour juger entre les prêtres et professeurs, et toutes les sectes et nous. Vous avez entendu leur doctrine, et vous avez entendu quelque chose des nôtres, vous avez vu leur conduite, et vous avez vu quelque chose de la nôtre, vous les avez entendus longtemps, et quelque chose de nous vous avez entendu pour un petit temps, et maintenant rendez votre témoignage, n'est-ce pas avec eux comme nous l'avons dit. Vos prêtres ne marchent-ils pas sur les traces des faux prophètes et des trompeurs, et ne cherchent-ils pas leur gain de leur quartier, comme ceux contre lesquels Isaïe criait, ne prêchent-ils pas pour salaire et ne devinent-ils pas pour de l'argent, comme ceux contre lesquels Michée criait, ne sont-ils pas tels par lesquels vous n'avez point été profitables, comme Jérémie criait. Que ce qui est de Dieu en vous réponde à ces choses. Ne sont-ils pas des hommes orgueilleux, des hommes cupides, des hommes envieux, des hommes téméraires et présomptueux, livrés aux gains honteux? Ne sont-ils pas tels que, par cupidité, ils trafiquent des âmes, et que par de bonnes paroles et des discours flatteurs, ils séduisent le cœur des simples, tels que Paul et Pierre déclarent contre eux? Ne sont-ils pas tels que les vrais prophètes, Christ et ses apôtres ont dénoncé? Ne produisent-ils pas les mêmes fruits que les faux prophètes et les faux apôtres? Je le laisse à vos consciences pour juges, comparez-les, et mettez-les à l'aune du vrai jugement. Si vous ne fermez pas les yeux, vous pouvez voir qu'il en est ainsi. Les avons-nous accusés à tort, ou n'avons-nous pas dit la vérité à leur sujet? Nous avons dit qu'ils sont de faux ministres et des trompeurs, et non de vrais ministres de Christ, et n'en est-il pas ainsi, que la lumière dans vos consciences réponde? Nous avons dit qu'ils ont couru sans avoir jamais été envoyés, et qu'ils n'ont nullement profité au peuple, et n'en est-il pas ainsi? J'en appelle au témoignage de Dieu en vous, et que cela rende témoignage que nous n'avons dit que la vérité. Examinez et éprouvez en toutes choses ce dont nous les avons accusés, et ne sont-ils pas coupables en tout ce que nous avons porté contre eux? Que le témoignage de Dieu en vous rende témoignage de ceci. Que jugez-vous d'eux? Ne sont-ils pas de cette race dont Christ a dit qu'elle viendrait, et qu'elle serait des loups en habit de brebis, et qu'elle séduirait beaucoup de gens, et que Jean a vu être venu en ses jours, et après laquelle le monde entier est allé? Ne sont-ils pas dans la nature des loups, dévorant et déchirant les agneaux de Christ? Ne déchirent-ils pas les gens en faisant emprisonner leurs corps et piller leurs biens, bien saisis par les tribunaux pour défaut de prêter serment? Ne séduisent-ils pas beaucoup de gens? Pourtant ils ont l'habit de brebis, les paroles des saints et leurs pratiques, mais intérieurement ne sont-ils pas ravisseurs? Le monde ne les suit-il pas, et le monde n'a-t-il pas couru après eux durant de nombreux âges? Et n'en est-il pas ainsi avec eux? Ont-ils reçu le don du Saint-Esprit, ou ne sont-ils pas faits ministres par la volonté de l'homme, et non par la volonté de Dieu? Ne diffèrent-ils pas, dans l'appel, la pratique, l'entretien, et dans les fruits et les effets, des vrais ministres et des vrais apôtres? Ne s'accordent-ils pas avec les faux prophètes, faux ministres et trompeurs, dans leur appel, leur pratique, leur entretien, leurs fruits et leurs effets? Sondez les Écritures, et mettez-les à cette aune, puis que le témoignage dans vos consciences juge et réponde. Ne préparent-ils pas la guerre contre ceux qui ne mettent pas dans leur bouche? Ne se nourrissent-ils pas de la graisse, et ne se vêtent-ils pas de la laine? N'oppriment-ils pas la nation et la création? Et ne sont-ils pas de ceux dont l'appel, les pratiques, l'entretien et tout le ministère dépendent du fait d'être issus du papisme? Tout cela n'a-t-il pas la saveur d'une ressemble-t-il pas au papisme? Et les parties principales et essentielles n'en ont-elles pas été ordonnées par le pape? Cela peut être pleinement manifesté. Tous les professeurs et les sectes de gens ne sont-ils pas tels qui ont la forme, mais sont sans la puissance de la piété? Les gens ne sont-ils pas encore cupides et terrestres d'esprit, attachés au monde, orgueilleux et vains, même ceux qui professent la religion et se disent un peuple séparé? Les professeurs ne sont-ils pas aussi cupides et orgueilleux que ceux qui ne professent pas? Ne sont-ils pas donnés au monde, et cela ne montre-t-il pas qu'ils ne sont ni changés ni transportés, mais que la mort règne parmi eux? N'est-il pas manifeste qu'ils ont pris la forme des paroles et des pratiques des apôtres et de Christ, et qu'ils sont sans la vie, et non guidés par l'Esprit de Christ comme les apôtres l'étaient dans leurs prières et leurs prédications? Vos âmes ne sont-elles pas maigres et affamées? C'est au témoignage de Dieu en vous tous que je parle, lequel peut attester que beaucoup de gens ont une apparence de religion sans vie, et n'avons-nous donc pas dit la vérité d'eux? En ce que nous avons dit au jour du jugement, vous en répondrez. Quant aux Quakers, que dites-vous d'eux? Vous avez vu leur conduite, il y a peu de villes où quelques-uns d'entre eux ne soient venus et ne soient parmi vous. Ne craignent-ils pas Dieu? Ne marchent-ils pas justement et véritablement parmi leurs voisins? Et ne disent-ils pas la vérité? Et ne font-ils pas la vérité en toutes choses, ne faisant à tous rien d'autre que ce qu'ils voudraient qu'on leur fît? Ne sont-ils pas doux, humbles et sobres? Ne supportent-ils pas beaucoup de tort plutôt que d'en faire à qui que ce soit? Ne sont-ils pas de ceux qui se plaisent dans les voies du Seigneur? Ne renoncent-ils pas au monde et à ses plaisirs? Et n'abandonnent-ils pas toute iniquité plus que vous-même? Ne prennent-ils pas la croix quotidienne de Christ contre toutes ces voies et les gloires terrestres? Ne prêchent-ils pas dans la puissance de Dieu, atteignant vos consciences quand vous les entendez? La lumière, en vous ne répond-elle pas qu'ils disent la vérité? Leur doctrine, leur pratique et leur entretien ne sont-ils pas les mêmes que ceux des apôtres et des ministres fidèles? Comparez-les à l'Écriture, et ensuite jugez dans vos consciences. Ne souffrent-ils pas bien des choses dures et cruelles, et même toutes sortes de maldisants et faisant contre eux faussement, à cause du nom de Christ? Ignorez-vous leurs grandes souffrances à travers cette nation? Et qu'en pensez-vous? Leur souffrance est-elle pour mal faire, ou n'est-elle pas pour la justice? Quel mal font-ils à qui que ce soit, en acte ou en parole? Pourquoi sont-ils couverts de reproches, et moqués, et tournés en dérision? Pourquoi sont-ils mis en prison, fouettés et ainsi cruellement maltraités? Est-ce pour quelque mal, ou n'est-ce pas parce qu'ils sont les serviteurs du Seigneur? Comparez leurs fruits aux fruits des prêtres, leur conduite à la conduite des prêtres, et voyez laquelle ressemble le plus à celle des apôtres. Je vous laisse ces choses, afin que vous veniez à considérer et à juger justement de toutes choses, car le Seigneur Dieu s'est levé, et sa lumière dans la conscience des gens brille, et elle répondra à ce que je dis dans ce monde ou au jour du jugement lorsque nous, et tout le genre humain, paraîtront et sortiront pour être éprouvés, et l'œuvre de chaque homme sera éprouvée, et tous recevront selon leurs actes. Si nous voudrions volontiers être rendus manifestes à tout le monde de sorte que si, après la lecture de ce livre, quelques-uns demeurent encore insatisfaits en cette affaire, et si quelques-uns, surtout parmi les chefs et les gouvernants, ont des doutes ou des soupçons éveillés en eux au sujet de nous et des prêtres, et voudraient être davantage satisfaits et éclaircis, à cette fin que des hommes sages propos pour la pleine satisfaction de toutes sortes de gens, que nous avec le consentement des principaux en autorité, qui ont pouvoir en cette nation. Autrement que les prêtres, ou professeurs, ou l'un quelconque d'entre eux, objectent ce qu'ils peuvent contre nous, dans nos principes, notre profession, notre foi et notre pratique, et toute notre religion. S'ils affirment et allèguent une ou plusieurs choses contre nous, à savoir qu'un principe que nous tenons, ou une pratique dans laquelle on nous trouve à travers toute notre religion, sont de faux principes et de fausses pratiques, et non selon la vérité ni les Écritures, mais s'ils affirment que notre religion n'est pas la vraie religion, ni que nous sommes de la véritable Église de Christ, ils auront pleine liberté d'apporter leurs meilleures preuves et raisons pour ce qu'ils affirment et allèguent. Pourtant, par la force de Christ, et dans la puissance et l'autorité de Dieu, et selon les Écritures, nous détruirons toutes leurs preuves et leurs raisons les plus fortes. Au contraire, nous engagerons nos principes, doctrines et pratiques, et toute notre religion, et chaque partie est particulier d'Aïssel comme étant la vérité même, et s'accordant avec les Écritures, et selon cela nous soutiendrons par des arguments et une plaidoirie légitime que notre religion et notre culte, et tout ce que nous professons et pratiquons, sont selon la pensée du Seigneur et justifiés par lui, et que tout ce qui était peut-être dit contre nous à cet égard est entièrement faux et doit être condamné, et sur cela nous entrerons. Aussi, dans un tel engagement, nous conviendrions d'avoir la liberté, librement et sobrement, d'objecter contre les prêtres, concernant leur ministère, leur appel, leur pratique, leur entretien, et leurs fruits et effets, et concernant leur Église et leurs principes, leur culte et toute leur religion. Nous écouterons patiemment tout ce qui pourra être dit en défense de cela par l'un ou tous d'entre eux, et nous prouverons, par l'Esprit du Seigneur et selon les Écritures, que leur ministère n'est pas le véritable ministère de Christ, ni qu'ils sont de vrais et légitimes ministres de l'Évangile. Mais nous manifesterons, par des arguments évidents, que leur appel, leur pratique, leur entretien, leurs fruits et leurs effets ne sont pas conformes, mais contraires à ce qu'était le vrai ministère, et à ce que son appel, sa pratique, son entretien, ses fruits et ses effets étaient chez les vrais apôtres et parmi les véritables églises. En outre, par la grâce de Dieu, nous prouverons que leur église, leur culte et toute leur religion, en toutes ses parties, ont dégénéré de ce qu'était la véritable Église, le véritable culte et la vraie religion au jour des apôtres et des véritables Églises d'autrefois. Ces choses, nous les rendrons manifestes par des arguments fidèles et solides selon les Écritures, afin que toute la terre sache, et que tous les peuples discernent qui est dans la vérité du véritable culte et de la vraie religion, et qui est dans le contraire, et si ce sont les prêtres et ce qu'ils professent et pratiquent pour religion, ou les Quakers et ce qu'ils professent et pratiquent pour religion, qui sont de Dieu et selon lui, et lesquels sont contraires, afin que la fin de ce long voyage, de cette guerre et de cette controverse soit décidée et justement. Que tous les prêtres et professeurs mettent de côté et abandonnent leur maison de correction, et l'emprisonnement des gens, et le fait de nous fouetter, de nous mettre au cep, et d'agir de cette manière violente et cruelle, comme ils l'ont fait ces années passées en défense de leur religion et en résistance de la nôtre. Qu'ils déposent leurs armes charnelles et le combat contre nos personnes, et le fait de nous emprisonner à cause de notre religion, et qu'ils viennent avec des arguments solides, les meilleurs qu'ils aient, et que nous voyons quelles armes spirituelles ils ont pour nous résister et se défendre, et essayons si leurs armes spirituelles ou les nôtres sont les plus fortes, les plus puissantes et les plus efficaces, et que celles qui sont telles prévalent sur les autres, que ce soit les nôtres ou les leurs. C'est là la manière d'éprouver la vérité, de rendre toutes choses manifestes, et de trancher et de mettre fin à toute la controverse entre nous et eux, qui a été grande durant ces nombreuses années. Que la vérité soit établie et exaltée, où qu'elle se trouve, et que toute tromperie soit jetée à terre, et guerroyons avec les armes de l'esprit, contre l'erreur et la fausse religion, l'un contre l'autre, mais ne faisons point de mal aux personnes, ne les emprisonnons pas, ne les mettons pas au cep ni ne les fouettons, et ne les faisons pas souffrir. Mais battons la tromperie, et fouettons et frappons celle-ci, ainsi que toutes les fausses opinions, jetons-les à terre là où on les trouve, que ce soit en eux ou en nous, et combattons avec les armes de l'esprit, qui sont spirituelles, et qu'ils ne combattent plus avec de si cruelles armes charnelles. Alors que ceux qui remportent la victoire et surmontent apparaissent comme étant dans la vérité de l'Église, et que ceux qui tombent et sont vaincus soient manifestés comme étant dans l'erreur, et de la fausse église et de la fausse religion. Aimons les personnes les uns des autres, et qu'ils n'agissent pas envers nos personnes autrement que nous n'agissons envers les leurs et envers eux, et qu'ils prennent la liberté de traiter avec nous et nos personnes comme nous traitons avec eux et leurs personnes, et non autrement. Que de tels hommes, qu'il s'agisse d'eux ou de nous, qui ne peuvent se prouver être la véritable Église du Christ, ni le véritable culte et la véritable religion, ni être dans la vérité, mais qui se trouvent dans l'erreur et hors de la vérité, que de tels hommes renient leur culte et leur Église, renoncent à toute leur religion et confessent au monde entier de leurs propres mains qu'ils sont et ont été trompés, et qu'à l'avenir ils se testent à jamais, et ne professent ni ne pratiquent plus rien de ce qu'ils ont fait dans une telle religion. Librement, sur ces points et à ces conditions, nous accepterons l'épreuve avec eux, qu'ils fixent le temps, le lieu, et proposent les termes à leur gré, et alors il sera manifeste au monde entier, et révélé à tous les peuples, si nous n'avons pas de bons fondements et une raison suffisante de faire la guerre à ces prêtres. Il pourra apparaître parfaitement que ce que nous avons dit et écrit contre eux, ces diverses années, repose sur un bon fondement, et que nous avons eu des motifs suffisants de parler et d'écrire contre eux comme nous l'avons fait. Dès lors, nul n'aura plus sujet de dire, ou de douter, que ce que nous avons dit et écrit contre eux ait été par malice ou par envie, et sans cause ni juste raison. Mais au contraire, tous sauront que le motif du différent est suffisant et pleinement équitable de notre part. Sur ces termes, ou sur tous autres termes et conditions équivalents, nous voudrions, et nous sommes prêts à nous engager avec ces prêtres, et avec tout ou l'une quelconque de ces sectes, dans une épreuve légitime, par dispute ou par écrit, pour l'examen et la recherche de la vérité et de la vraie religion. Et n'était-il pas juste et raisonnable que nous eussions la même liberté, parmi tous ces prêtres, et dans leurs églises ou assemblées, de déclarer librement notre pensée, et d'exposer ce que nous tenons et professons, sans être violemment traînés, battus, fouettés et envoyés en prison, comme nous l'avons été toutes ces nombreuses années. Cette liberté, nous l'accordons et la permettons librement parmi nous à tous, de questionner ou de déclarer ce qui est sur eux, sans de tels traitements violents, ni fouets, ni envois dans des prisons et des maisons de correction. Nous ne désirons, en ce point, de la part des autres, que la même liberté et aucune autre pour déclarer la vérité et ce que nous tenons, que celle que nous accordons et voudrions accorder aux autres, et qu'aucune arme ne soit utilisée par eux contre nous, ni aucun procédé envers nous, sinon les armes de l'esprit, les meilleures qu'il y ait ou qu'ils puissent produire contre nous. Qu'ils laissent les créatures tranquilles, et ne leur fassent ni mal ni violence, et nous n'emploierons contre eux aucune autre arme, et n'agirons envers eux par rien d'autre que les armes de l'Esprit de Dieu, qui est puissant et abat les forteresses, et quant aux créatures, nous ne leur ferons ni mal, ni violence, ni emprisonnement, que ceux dont les armes sont les plus fortes l'emportent. Ceux qui sont vaincus ne sont pas la véritable Église, car la véritable Église du Christ bâtie sur le roc, les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre elle. Que ce qui l'emporte le manifeste, afin qu'il soit évident que Dieu est véritablement avec eux. Que tous cessent de défendre leur Église, leur ministère et leur religion par des prisons, des fouets et des maisons de correction, car la véritable Église, le véritable ministère et la véritable religion n'ont jamais été défendus par de telles choses, mais seulement la puissance et l'autorité de Dieu les ont préservés et ont résisté à tous leurs ennemis, et il en est ainsi aujourd'hui. Que tous cessent de crier « trompeurs » et d'avoir peur d'être trompés, car s'ils sont la véritable Église tous, ou l'une quelconque de ces sectes et professions de religion alors, si nous sommes des trompeurs et que nous venions parmi eux, ils ne peuvent être trompés s'ils sont dans l'élection, car ni les trompeurs, ni les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre la véritable Église du Christ, ni contre ceux qui sont élus, en qui le diable n'a rien. Si nous sommes la véritable Église du Christ et dans l'élection, alors, quand bien même tous les trompeurs de la terre viendraient parmi nous, ils ne pourraient prévaloir contre nous ni nous tromper, car les élus ne peuvent être trompés. À ces conditions, nous pouvons nous engager avec n'importe quel peuple et n'importe quelle secte sur la terre. Venez donc à cela et joignez-vous à nous. Prenez la liberté de déclarer sobrement ce que vous reconnaissez et professez, et vous ne serez pas persécutés, ni vos corps ni vos personnes ne seront atteints par la violence, et laissez-nous avoir cette liberté de déclarer avec douceur et sobriété, et dans l'autorité de Dieu parmi vous, ce que nous tenons et professons, et que nous ne soyons pas persécutés ni traités violemment, et qu'il apparaisse alors si nous ou nos ennemis avons un témoignage plus grand et plus puissant dans le cœur des gens. N'est-ce pas une voie pleine d'équité pour l'épreuve de toutes choses, mais agir au contraire, comme vous l'avez fait toutes ces nombreuses années contre nous, par la violence, le fouet et la persécution, montre que vous n'avez pas les armes spirituelles, ni l'autorité de Dieu avec vous, ni parmi vous. C'est la cause du recours aux magistrats, des emprisonnements, des fouets et de toute violence, parce que l'autorité de l'Esprit de Dieu manque parmi vous, ce dont toutes les fausses sectes et les fausses églises, depuis les jours des apôtres, ont manqué pour se défendre et résister à leurs ennemis. Ainsi toutes les sectes se sont combattues entre elles, ont tué des personnes et se sont défendues par des prisons, des inquisitions et la destruction de vie. Celles-ci étaient hors de la puissance de Dieu et dans la puissance du dragon et de la bête qui a contraint tous à adorer, et ceux qui ne voulaient pas, il a eu le pouvoir de les tuer et les a tués par les feux, les tortures et des morts cruelles. Tous ceux-là ont perdu les armes spirituelles et ont été sans la puissance et l'Esprit de Dieu. Quelle église est donc la vôtre, qui a besoin d'être défendue par des cachots, des prisons, des fouets, des entraves et des traitements violents? Cette église n'est pas l'église du Christ, car la puissance et l'Esprit de Dieu la défendent toujours, et non les inquisitions, les prisons et les fouets. Ce sont les armes de Caïn, et non les armes de l'Esprit de Dieu, par lesquelles sa véritable église fut jamais défendue. Car parce que le sacrifice de Caïn ne fut pas accepté, il tua son frère et le persécuta. Et ainsi vous qui êtes de la semence de Caïn faites de même, pour le même motif, parce que vos œuvres sont rejetées et que les leurs sont acceptées, ce contre qui vous agissez de cette manière violente de persécution et de méchanceté. C'est l'Église protestante, ainsi nommée, et ses ministres, avec lesquels je traite maintenant, qui semblent être la véritable Église, et plus que l'Église de Rome. Car vous, ministres protestants, niez et criez contre l'Église de Rome comme étant une fausse Église, et contre ses ministres comme étant des trompeurs, ce qui en soi est très vrai et pourtant votre hypocrisie en cela apparaît, et votre duplicité. Car laissez-moi vous dire que, tandis que vous criez contre l'Église de Rome comme contre une fausse idolâtre et une persécutrice de la véritable Église, et contre ses ministres comme trompeurs et contraires aux apôtres, vos esprits sont les mêmes, et vos œuvres sont les mêmes en nature, quoique non en mesure. Elle, pour se défendre, a des inquisitions, des bannissements et de nombreuses tortures cruelles, et par ces choses elle se défend, tuant et affligeant les corps des gens qui s'opposent à elle et ni sa religion. Et vous, vous avez des entraves, des fouets et des maisons de correction, et vous imposez de grandes amendes et corvées aux gens, vous les bannissez des villes, vous pillez leurs biens et vous les jetez en prison où beaucoup meurent, qui s'opposent à votre église et ni votre religion. N'est-ce pas là, en nature, égale et justement conforme à la persécution qui est dans l'église romaine, quelle différence y a-t-il entre la défense de l'église de Rome et celle de votre église des protestants? Eux ont leurs inquisitions, et vous avez vos maisons de correction, eux ont leur esclavage aux galères, et vous avez les fouets et les entraves, ils ont leurs divers tourments et leurs traitements cruels envers les personnes qui s'opposent à eux d'une manière, et vous avez vos tourments et vos traitements cruels envers nous d'une autre manière, quoique non dans la même mesure, pourtant dans la même nature. Quelle différence entre vous et eux? C'est en cela que se manifeste l'hypocrisie de l'Église protestante et de ses ministres. Ils crient contre l'Église de Rome, la nie, ainsi que sa persécution et sa cruauté exercée contre d'autres, et pourtant, en nature et en manière, ils pratiquent la même chose contre nous, comme on en témoigne aujourd'hui en Angleterre. Non seulement en ce point l'Église et les ministres des protestants peuvent être condamnés pour hypocrisie, mais aussi en bien d'autres choses, même la plupart de leurs pratiques dans leur culte sont de la même nature et animées du même esprit que celles de l'Église de Rome. Et non seulement cela, mais on peut prouver véritablement et rendre manifeste que nombre de pratiques de votre Église procèdent de l'Église et du pape de Rome, qui ont ordonné et institué beaucoup de vos pratiques, et une grande part de votre culte, tel qu'il est accompli dans l'Église et par le ministère des protestants ainsi nommé. En son temps et en sa saison, je puis le faire pleinement paraître et le révéler aux nations, et je puis montrer, en détail, quels éléments du culte et de la pratique dans l'Église protestante ont eu leur naissance et leur origine dans l'Église de Rome. Quoique ces choses soient accommodées par des retranchements et des ajouts, selon que leurs imaginations les ont guidées, elles retiennent encore le goût et la saveur les plus forts de l'Église de Rome, et elles y ont eu leur commencement et leur origine. Bien que, dans leur exécution, elles puissent être altérées et changées d'apparence et de forme, elles sont exactement les mêmes quant au fond et à la nature, comme procédant de l'Église de Rome, et elle est la mère de l'Église protestante, et de la plupart de ses pratiques et de ses accomplissements dans le culte. Cela peut être prouvé, et Dieu voulant, à l'occasion selon que le Seigneur me meut, je pourrais montrer que, bien que l'Église des protestants ait déserté l'Église de Rome, pourtant son ministère, son appel et son ordination, ainsi que sa pratique et son entretien, dépend de l'Église de Rome, comme étant l'origine de ce qui est pratiqué par eux, quoiqu'en certaines choses ils se soient écartés de la forme et de la pratique exacte. De même, tout le culte, tous les éléments, en relation avec l'Église protestante, le ministère et le culte dépendent de l'Église de Rome, comme en étant la première origine. Bien qu'il crie contre elle et ses ministres, et les renier, pourtant elle est la mère d'où ont procédé l'Église protestante, le ministère, le culte et les pratiques, et il peut être pleinement manifeste que l'Église, le ministère et le culte des protestants ont principalement le goût et la saveur de l'Église et du culte de Rome, et en tirent leur origine. Plus encore, on peut montrer que l'Église protestante, son culte et son ministère ne sont pas autres, en nature et en être, que l'Église romaine, son ministère et son culte, mais qu'ils en ont jailli comme des branches d'une même racine, le fond étant un et le même, quoique différent d'apparence. À son commencement et lors de sa première dissidence d'avec l'Église romaine, elle ne l'a pas renié quant au fond et à l'être, comme si elle n'était nullement l'Église du Christ, mais seulement elle a dissenti en certains points, tout en conservant toujours, alors et jusqu'à ce jour, plusieurs de leurs pratiques en matière de culte et de gouvernement d'Église. Ce qui montre que l'Église protestante n'est pas parfaitement une autre, ni son ministère, son gouvernement et son culte autres, mais les mêmes quant au fond et à l'être, seulement divergents et déviants. Cela pourra être pleinement manifeste en temps opportun, que l'Église protestante, le culte et le ministère ont jailli de l'Église romaine, comme une branche sortie d'elle, non contraire à elle ni contre elle. Toutes ces choses, le Seigneur les découvre et les met au grand jour, afin que les nations et les peuples viennent contempler la mère des prostituées, ce mystère d'iniquité, et tous ses enfants, et qu'ils voient l'état et le cours des temps et des choses, depuis les jours des apôtres et des véritables églises. Que toutes ces diverses sectes, et toutes ces églises faussement ainsi nommées, se sont élevées l'une de l'autre, d'une seule semence et d'un seul saint, et quoique diverses en apparence et nombreuses en pratiques et professions, pourtant elles sont toutes une quant au fond et à la nature, issues de la mère des prostituées, toutes, et elles sont ses enfants. Elle a corrompu la terre par ses fornications et ses prostitutions, et a enivré les nations et les royaumes de sa coupe d'idolâtrie. Mais le Seigneur Dieu s'est levé et plaidera contre elle, et lui rendra le double, et les saints prophètes et apôtres se réjouiront à son sujet, et cela arrive, et je l'ai vu du Seigneur, et je l'ai reçu de lui, et ainsi il m'est venu d'écrire. J'ai vu les eaux se dessécher, le siège de cette grande prostituée, qui par la coupe de fornication de son pouvoir de séduction, a enivré ainsi toutes les nations, et souillé toute la terre de sa coupe de sorcellerie, elle qui les a longtemps abusées. Mais des peuples nombreux sont et seront, et des multitudes toutes peuvent, et les nations toutes se convertir vers une autre voie. Et les langues maintenant seront confondues, et les tribus devront se lamenter, et quand cela sera vu achevé, alors on dira que son siège est renversé. Car ce sont là toutes les grandes eaux sur lesquelles son siège a été, et sur lesquelles sa domination fut grande, comme une reine majestueuse. Durant des âges passés, on le voit maintenant, elle a joué ses prostitutions et des royaumes ont été ensorcelés qui ont obéi à sa puissance. Mais maintenant on le voit, ses sortilèges sont connus, et les hommes ne croiront plus, sa misère est révélée. Et le lit funeste je vois, de grands tourments préparés, sur lequel elle devra bientôt être jetée, et les plaies ne seront pas épargnées. Mais malheur à elle, la coupe de colère est remplie qu'elle a donnée aux autres, elle la boira maintenant elle-même, la même, elle doit la voir. Et elle doit boire, et bien profondément, de la farouche indignation de Dieu, et alors ses amants pleureront et pousseront une grande lamentation. La cité aussi, je l'ai vue qui fut jadis grande et belle, détruite et bientôt dévastée, ses marchands désespéraient eux qui par à elle faisaient grand gain et commerce pour s'enrichir, et elle avait des trafics venus de loin. Mais maintenant tout se lamente car un feu est allumé en elle brillant, qui doit tout la consumer, et jusqu'au ciel, jour et nuit, s'élève sa fumée. Et l'Antichrist, qui, écumant, dévorait au-dedans la vérité, la lumière, était couvert d'une peau de mouton, et régnait sur des rois par sa puissance. Lui qui ravageait l'héritage de Dieu, et avait un grand royaume, les saints lui firent la guerre, et la vérité lui donna la défaite. Voici, j'ai vu brûler la chair de la prostituée, sa beauté maintenant tombe, mère de toutes les prostituées elle a été, ses filles sont toutes des prostituées. Voici, la grande et belle cité est tombée à terre, elle par qui les nations se sont enrichies, en elle, nul profit n'est trouvé. Voici, l'Antichrist jadis grand, son royaume est presque dévasté, le Seigneur le fera descendre de son siège, le jour vient en hâte. Le royaume du Christ vient avec rapidité, le Seigneur seul régnera, il exaltera à jamais sa semence au-dessus de l'Antichrist et de sa suite. La femme, je l'ai vue revenir, elle prit le désert, un lieu où elle se lamenta grandement, et là elle prit repos. J'ai vu la germination de sa semence, l'enfant mâle doit maintenant dominer, par lui les nations ont resplendi à jamais, dis-je. Les louanges au roi céleste, lorsque cela s'accomplira. Oh alors réjouissez-vous et chantez, vous tous saints et prophètes, quand Dieu répandra sa grande vengeance pour faire tomber nos ennemis, alors c'est le jour où il cite de louer pour les saints grands et petits. Poème cite sud Edward Burroughs dans ce livre, le grand mystère de la grande prostituée dévoilée et le royaume de l'Antichrist révélé a été considérablement modifié par les éditeurs. C'est pourquoi il a été remplacé par la formulation originale trouvée dans un livre antérieur qui contenait tous les écrits d'Edward Burroughs, les œuvres mémorables d'un fils de tonnerre et de consolation, à savoir ce véritable prophète et fidèle serviteur de Dieu, et souffrant pour le témoignage de Jésus Edward Burroughs, qui mourut pris. Edward Burroughs, Londres, 9e mois 1658. Voici les principes des prêtres, des professants et des pasteurs dans l'apostasie, qui se sont élevés depuis les jours des apôtres, et qui, en ce jour, se sont levés contre l'agneau et contre les saints. Car depuis les jours des apôtres, la bête a eu pouvoir, le faux prophète et la mère des prostituées qui intérieurement se sont déchaînées loin de l'Esprit de Dieu, qui ont revêtu l'habit de brebis, et par ce moyen ont trompé les nations, et ont gagné à les rois de la terre, et les ont revêtus d'un dehors, par quoi les rois de la terre et la bête, et le faux prophète, le dragon, le diable, la mère des prostituées et la grande prostituée se sont unis en un contre les saints, les ont vaincus, les ont jetés en prison, et ont. Mais maintenant les saints et l'agneau auront la victoire, lui qui tue s'est fait périr par l'épée, laquelle est les paroles de sa bouche, conformément à la doctrine de l'apôtre, qui ne lutte pas contre la chair et le sang. Or la bête, le faux prophète et la mère des prostituées, le diable et l'antichrist, qui ont bu le sang des saints, qui portent l'habit de brebis, ce sont eux les tueurs par l'épée, les meurtriers par l'épée, les geôliers et les persécuteurs, ce qui n'était pas l'œuvre des véritables apôtres, des véritables ministres, qui gardaient la foi et la patience de Jésus. Les martyrs, les saints et les prophètes ont souffert. Ceux-ci étaient dans l'esprit qui a donné les Écritures, mais les autres ont obtenu les Écritures, les antichrists, les faux prophètes, la mère des prostituées, le diable, la bête et tous ces noms, qui tuaient et faisaient périr par l'épée. Ils sont intérieurement déchaînés loin de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de l'agneau, de l'Esprit de l'apôtre, eux qui tuaient et faisaient périr par l'épée, laquelle est les paroles de sa bouche. Ainsi tous ces noms, dans toute la chrétienté parmi tous ceux qu'on appelle chrétiens, se sont élevés parmi eux depuis les jours des apôtres, eux qui sont sortis de la vie, de la foi et de l'esprit dans lesquels ils étaient, et dans lesquels ils avaient l'unité, qui était le lien de la paix. Ceux-là ont eu les paroles, mais se sont déchaînés loin de la vie, et ainsi ils s'attroupent tous autour des paroles, en se donnant des noms les uns aux autres. Considérez donc toute la chrétienté et voyez l'abondance de noms qu'il y a, alors qu'il ne devrait y avoir qu'une seule famille. Astérisque tous ces noms, ces cornes et ces couronnes, ces constructions et ces démolitions, sont un signe parmi ceux qui ont eu les paroles mais étaient hors de la vie, vie qui maintenant s'est levée, celle dans laquelle vivaient les apôtres, et dont ils sont sortis depuis les jours des apôtres, en de nombreux noms et amas, dans l'apostasie. Or avec la vie, tout cela est sondé et compris, et en elle est l'unité, cette vie conduit les gens à connaître Dieu, et à l'unité avec lui, et avec les Écritures, et les uns avec les autres, et tous y sont un, quand même ils seraient 10 000 fois 10 000. Vous qui lisez ce livre, vous pourrez lire et voir des choses que vous n'avez jamais lues ni vues imprimées. Les agneaux ont-ils jamais déchiré les loups? Les loups n'ont-ils pas revêtu l'habit de brebis? Et ne se sont-ils pas jetés sur les brebis et les agneaux, afin de se glisser parmi eux? L'orgueil, la sauvagerie et le plaisir ont englouti les gens, les docteurs et les ministres, si bien que si quelqu'un est sobre et tranquille, aussitôt on le traite de quake, ainsi la modestie est dévorée. Astérisque commentaire de l'éditeur du site, il existe aujourd'hui 41 000 sectes différentes dans le christianisme. C'est l'esprit charnel de l'homme, plutôt que le Saint-Esprit, qui dirige l'apprentissage issu de l'étude de la Bible, car le but du Saint-Esprit est d'obtenir l'unité de la foi. Pourtant, il y a 41 000 sectes dans la chrétienté, chacune avec un ensemble différent de croyances sur ce que la Bible signifie réellement. Chaque secte prend un sous-ensemble des Écritures et crée sa propre image de Dieu et de Jésus, puis l'adore, le tout sur la base de son opinion collective quant aux Écritures qui seraient invalides et à celles dont elle pense qu'elles lui donnent la vie éternelle. Mais toutes les Écritures sont valides, et si vous devez en ignorer certaines qui contredisent votre compréhension, vous ne comprenez pas vraiment celles que vous pensez comprendre. C'est une preuve massive que l'étude de la Bible produit l'opposé de ce que désire le Saint-Esprit une seule fois et ne conduit pas à la vérité. Au lieu de l'étude de la Bible, nous avons besoin d'être enseignés directement par le Saint-Esprit en écoutant, qui désire et promet de nous enseigner toutes choses. Jean 14, 26. Ceci est la préface du volume 3 sur 8. Cliquez ici pour passer au début des réfutations de Fox aux affirmations non scripturaires des sectes protestantes en Angleterre. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.